I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2,21 gigawatts, mon Dieu!
Recherche, scalaire.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Il faut être gentil avec les vers de terre. Grâce à eux, les morts reviennent sur terre.
Et Jamy, regarde, pour notre partie de pêche, j'ai trouvé plein de vers de terre. On les appelle aussi lombriques.
Bah, ils sont moches, ils sont énormes.
Dans le monde, il y a ceux qui voient le verre à moitié plein et ceux qui voient plein de vers de terre. C'est cette deuxième catégorie qui nous intéresse aujourd'hui. Dégoûtant et remuant, alors ça, le lombric l'est à 100%, mais aujourd'hui, vous allez le découvrir fascinant. Si, si, je vous assure, les scientifiques respectent tellement le travail de ce petit animal qu'ils lui ont donné le sobriquet d'ingénieur des sols. Je suis Romain Gouloumès, vous écoutez 6ème Science, préparez-vous à descendre 6 pieds sous terre. Cette expédition, heureusement pour vous, je ne l'amènerai pas seul. Je suis accompagné non pas d'un ver de terre, mais de quelqu'un qui a bien creusé le sujet. Je veux bien sûr parler de mon invité qui s'appelle Loïc Chauveau. C'est le spécialiste environnement de la rédaction de Science et Avenir. Bonjour Loïc.
Bonjour.
Non pas que je ne sois pas ravi de parler des vers de terre aujourd'hui avec toi, mais est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, dans ton dossier, dans le numéro de février 2020 de Science et Avenir, tu as choisi de consacrer un article aux vers de terre?
Il y a une étude qui est parue dans Science qui nous a beaucoup intrigués. D'abord, le numéro de Science de novembre, c'était des vers de terre, en une, de la plus grande revue scientifique mondiale.
Grosse consécration.
Grosse consécration pour l'animal. Et donc, à l'intérieur, effectivement, il y avait toute une étude. C'était le premier inventaire mondial de ces animaux. Et on essayait, dans cet article, de savoir combien il y avait d'espèces, entre 6000 et 10 000, parce qu'on ne connaît pas tout. Et puis, on a surtout vu, constater quelque chose qui est complètement étrange. Vous savez qu'en règle générale, il y a beaucoup plus d'espèces au tropique que dans les zones tempérées, et encore plus évidemment que dans les zones boréales. Et bien pour le ver de terre, c'est différent. Il y a beaucoup plus d'espèces dans les zones tempérées que dans les zones tropicales. Et ça, ça tient évidemment à l'animal, puisque ben, il n'a pas de peau, il est évidemment tout le temps humide, et comme il n'a pas de peau et qu'il vit dans les sols, dès que c'est un peu trop chaud, un peu trop sec, et ben, c'est difficile pour lui.
Il craint la déshydratation. Quoi.
Il craint la déshydratation, c'est bien sûr.
Donc ça, c'était la première et la principale conclusion, c'est ça, de cette étude hein, des spécialistes de la géodrilologie. C'est bien ça, c'est l'étude des vers de terre. J'ai découvert ce terme grâce à toi. Alors, parmi les autres éléments qui m'ont fait sursauter en lisant ton dossier, c'est un chiffre. Il y a un chiffre qui dit que 50%. Donc si l'on prenait tous les animaux terriens, hein, qu'on les mettait sur une grosse balance, eh ben, sur le poids qui s'afficherait, la moitié reviendrait aux vers de terre. C'est-à-dire que les vers de terre pèsent la moitié de la biomasse animale terrienne de la planète. C'est quand même assez ouf.
Oui, mais c'est exactement ça. Et on n'a pas conscience, effectivement, parce qu'on ne les voit jamais. Sinon, il faut creuser un petit peu la terre ou aller à la pêche et vouloir avoir un peu d'appât pour aller les chercher. Mais pour le reste, quand on regarde combien ils sont, on s'aperçoit que leur présence, d'abord, elle est partout dans tous les sols, qu'ils soient agricoles ou pas. Et deuxièmement, on arrive sur les meilleurs terrains, sur les prairies permanentes qui n'ont jamais été labourées, jusqu'à 1,5 tonne d'animaux par hectare. Dans les champs de maïs, c'est 103 kilos à peu près, donc visiblement, l'agriculture, ils n'aiment pas.
On va en parler, on va en parler.
On va en parler. En tout cas, 1,5 tonne par hectare, vous multipliez par tous les hectares qu'il y a sur la surface de la Terre et vous comprenez qu'effectivement, là, vous avez une biomasse absolument stupéfiante.
Quelle audace ! Vers de terre, débarrasse ! Le plancher, pour qui se prend ce rustre?
Alors, comment ça se fait que cette biomasse qui est si présente que ça, même si on la voit pas, attire si peu l'œil des scientifiques, des médias ou même du grand public? On l'a dit, hein, personne n'aime, quand il est enfant ou même adulte, les vers de terre. C'est pas un animal comme le panda ou le dauphin qu'on a envie de défendre, par exemple. Mais qu'est-ce qui fait que c'est des animaux qui sont plutôt boudés?
Ils sont peut-être boudés, mais il y a une catégorie de la population qui ne les boude pas du tout, ce sont les agriculteurs. Parce que ceux-ci savent très bien que sans vers de terre, leur terre serait morte. On connaît désormais très bien leur rôle. on parlait tout à l'heure d'ingénieur du sol, c'est-à-dire que les vers de terre creusent des galeries dans les sols, absorbent la matière organique, la digèrent et la restituent d'une façon qui est assimilable par les plantes, et aèrent en général les 30 premiers centimètres de sol. Et avec ce rôle-là, l'eau rentre plus facilement dans les couches inférieures, la matière organique est plus importante et donc la fertilité est meilleure. Et on a une terre qui respire, qui est en contact avec l'atmosphère et qui est donc beaucoup plus légère et beaucoup plus facile à cultiver. Il y a une pratique qui est assez peu connue en France, qui est la culture sans labour. Les agriculteurs ne labourent plus et ils ressèment sur les sols sans jamais les labourer. Qui laboure ? Les vers de terre. Et vous savez combien de tonnes les vers de terre remuent à l'hectare ?
Je n'ai aucune idée.
30 tonnes.
Okay.
30 tonnes sont remuées tous les ans par hectare.
C'est-à-dire qu'un ver de terre, par mois ou je ne sais pas, dans sa vie, est-ce qu'on sait combien de tonnes il va remuer ?
Par chaque individu, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que, en tout cas dans nos régions tempérées, il y a trois espèces principales. Elles ont chacune leur rôle bien particulier. Vous avez les épigées qui sont à la surface du sol et qui vont s'occuper de la litière sur le sol. Vous avez les endogées qui, eux, vont rentrer dans les 5-6 premiers centimètres et creuser des galeries verticales. Et vous avez les anéciques qui, eux, vont creuser en profondeur. Et leur travail, tous les trois, ne sont jamais dans les mêmes horizons de sol, ont chacun leur rôle spécifique et chacun leur vertu.
Alors, les agriculteurs s'intéressent de près aux vers de terre, mais ce n'est pas les premiers, parce que j'ai découvert dans ton dossier, encore, je vais arrêter de le citer, qu'un certain Charles Darwin avait consacré son dernier bouquin, son dernier ouvrage aux vers de terre. On va dire que c'est une sorte d'héritage assez particulier quand même de la part de l'auteur de la théorie de l'évolution que de laisser en dernier ouvrage une œuvre consacrée aux vers de terre. Pourquoi et qu'est-ce qu'il y dit dans cet ouvrage ?
Alors, c'est peut-être son dernier ouvrage, mais derrière cet ouvrage, il y a 40 ans d'observation. Darwin s'est toujours passionné pour le vers de terre. On a toujours dans l'image le Darwin allant dans les îles Galapagos et regardant les moineaux, l'évolution, etc. Mais quand il est rentré, il n'a plus jamais voyagé. Il avait un jardin. Et dans ce jardin, il a observé les vers de terre. Et il avait notamment une pierre qui était dans un des espaces. Et cette pierre, elle est restée pendant 40 ans. Et il voulait voir si les vers de terre étaient capables de l'enterrer. Tout ça pour évaluer combien de travail le vers de terre faisait dans la terre. Autre idée, il s'est amusé à mettre un pot de terre avec des vers de terre dedans sur un piano, jouer de la musique et s'apercevoir que si le vers de terre n'avait pas d'ouïe, par contre, il sentait très bien les vibrations. Il a également inhalé de la fumée de tabac. Il n'était pas fumeur, mais il a inhalé de la fumée de tabac sur des vers de terre pour savoir s'ils avaient de l'odorat. Ils n'ont pas d'odorat. Enfin, au bout de 40 ans quand même et sentant sa mort venir, Darwin a dit « il faut que je fasse un résumé de toutes ces observations ». Et c'est donc voilà un an avant sa mort qu'il a publié ce livre qui a beaucoup mieux marché que son livre principal de l'origine des espèces. Il l'a beaucoup mieux vendu.
Mais 140 ans plus tard, parce que cet ouvrage, ça, il date de 1880, je crois. Hein,
1881.
Et qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui que ce que Darwin nous en disait en 1881 ?
Alors, on en connaît beaucoup plus sur les mœurs de l'animal. On sait que c'est un animal hermaphrodite, mais qu'il a quand même besoin d'un partenaire pour se reproduire. On sait qu'il est composé de petits anneaux les uns derrière les autres, que chaque anneau est comporté de 8 poils, ce que Darwin ne pouvait pas constater. On sait également que son mode de vie l'oblige à avoir des milieux quand même plutôt humides. Et c'est justement la question qui se pose maintenant et sur laquelle les scientifiques se penchent beaucoup, c'est de savoir comment cet animal va résister au réchauffement climatique. Si effectivement on a moins d'humidité dans les sols, je pense que les vers de terre seront les premières victimes. Je ne suis pas tout seul à le penser, mais une bonne partie de la communauté scientifique qui s'intéresse à la question ont de grandes craintes.
Bizarre, hein ? Pas si froid que ça.
Pour un mois d'avril, il fait même chaud. Hein.
Et je me disais aussi, c'est à cause du réchauffement de la planète. C'était plus rude dans le temps, non ?
Tu m'ouvres la porte pour la question qui allait suivre, c'est que quand on parle de réchauffement climatique, on pense aux ours polaires, à la fonte des glaces, mais pas du tout aux vers de terre. Alors dans quelle mesure ces animaux souterrains, donc on pourrait imaginer relativement protégés au départ du réchauffement climatique, dans quelle mesure ces animaux vont y être exposés et vont pâtir ?
Ils vont être exposés par la récurrence des sécheresses. Ce que disent les experts du GIEC, les climatologues, c'est qu'au lieu d'avoir des pluies régulières et des périodes sans eau plutôt limitées, on s'attend à avoir des précipitations brusques, courtes, dans le temps, avec de longues périodes de sécheresse. Et ce qu'on craint, c'est que ces longues périodes de sécheresse soient très néfastes pour les vers de terre. Dans un sol sec, le ver de terre ne peut pas vivre. Les étés très secs, ce qu'il fait, c'est qu'il limite complètement son activité, il ne creuse plus, il ne fait plus ses galeries et il attend que ça se passe. Il peut attendre un certain temps, il peut attendre une semaine, peut-être 15 jours, mais il ne peut pas attendre 2 mois.
Ouais.
C'est pas possible. Et c'est ça qu'on craint.
Ok. Et à contrario, l'augmentation du niveau des eaux pourrait aussi peut-être, c'est ça, noyer des terres sur lesquelles vit le ver de terre ?
C'est un risque, mais qui n'est pas sur l'existence même des vers de terre, mais sur certaines espèces de vers de terre. Il y a des vers de terre qui habitent près des zones marines, près des littoraux. Et effectivement, si ces marais, par exemple, sont inondés, ces espèces endémiques peuvent disparaître.
Alors, est-ce que la cause de ces animaux, aujourd'hui, elle est entendue ? Est-ce qu'on réagit vis-à-vis de la menace climatique qui pèse aussi sur eux ? On évoquera une autre menace, qui est celle des pesticides, ce genre de choses. Mais déjà, de ce point de vue, les enjeux sont quand même assez importants. Tu as rappelé le rôle des vers de terre dans la gestion et la fertilité des sols. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des défenseurs ou des politiques qui sont à l'écoute des vers de terre ?
Alors, je vais vous surprendre, mais oui.
Et oui, de plus en
plus,
pas.
Et jusqu'au plus haut niveau européen, par exemple. Tout simplement parce qu'on s'aperçoit que l'agriculture productiviste a d'énormes impacts environnementaux et qu'elle n'est pas si rentable que ça. Et puis, en plus, elle émet énormément de gaz à effet de serre. Donc, tous les programmes actuels politiques se penchent vers l'agroécologie, l'agroforesterie et l'agriculture bio, évidemment. Et toutes ces formes d'agriculture sont favorables aux vers de terre. Et d'ailleurs, ces formes d'agriculture ont bien besoin des vers de terre. Parce que c'est eux qui vont justement permettre d'aérer les sols sans qu'on ait besoin d'avoir l'apport d'engrais ou d'intrants extérieurs.
Ok. Justement, alors tu parles d'intrants, on parle éventuellement de pesticides. Enfin, qu'est-ce que ça fait dans une zone où on va justement, si on ne touche pas du tout aux vers de terre, on utilise des pesticides, des engrais, quel est l'impact sur l'activité et même la population des vers de terre ?
Alors, l'expérience a été faite par l'INRA. Le constat est évident, les vers de terre n'aiment pas les pesticides. On a mesuré sur différents sols avec différentes cultures l'impact de différents pesticides et à chaque fois on a des résultats qui montrent des abaissements de toutes les populations et principalement aussi des épigées, ceux qui vivent à la surface. Ce sont eux qui sont les plus menacés. À la rigueur, les anéciques peuvent aller un petit peu plus profondément pour éviter les poisons.
Ils vont jusqu'à 1 mètre, c'est ça ?
Jusqu'à 1 mètre, mais dans une région, 1 mètre c'est déjà beaucoup. Et donc, l'INRA, par exemple, a calculé que si on réduisait de moitié les pesticides, comme il est prévu par le plan éco-phyto, qui n'est pas du tout respecté d'ailleurs, mais si on réduisait de moitié les épandages de pesticides, on aurait une remontée importante d'au moins un tiers de toutes les variétés de vers de terre. Il y a une relation directe.
Les vers de terre, ils participent à la fertilité du sol, mais ils participent aussi à la vie d'autres animaux, d'autres espèces. Ça peut être les microbes, mais aussi les plantes qui sont dans ces zones-là.
Alors, ça, c'est un grand mystère. On a des signes extérieurs qu'effectivement, les vers de terre ont un effet direct sur les plantes. À l'INRA à Dijon, ils ont fait une expérience assez simple. Ils ont pris une plante de laboratoire qui s'appelle la rabette. Et par mutation génétique, ils lui ont enlevé une hormone, l'auxine, qui est l'hormone de croissance des plantes. Donc a priori, ces plantes ne peuvent pas pousser. Et ils ont pris 2 pots. Un pot où il y a des vers de terre, avec une plante évidemment dedans, et une peau avec une arabette et pas de vers de terre. Et on s'aperçoit que l'arabette qui a des vers de terre à proximité, bien qu'elle n'ait pas d'hormone de croissance, pousse. Et alors ça, pour l'instant, on n'a pas d'explication, mais on se dit qu'effectivement, il y a une relation, certainement chimique, entre l'animal et la plante, qui fait que la plante a un avantage, autre que celui simplement d'avoir sa terre labourée et aérée, qui pourrait être une relation directe, en quelque sorte.
Ouais, dans ton dossier, tu parles même de vaccin de la
part d'un anticorps. Ouais. Mais c'est une hypothèse, ça n'a pas été prouvé. Et il y a pas mal d'équipes dans le monde, dont celle donc de l'INRA Dijon, qui s'intéressent beaucoup à la question en se disant ben, si on arrive à trouver effectivement quelle est la relation, on aura peut-être une arme supplémentaire pour améliorer la santé des plantes sans utiliser de pesticides.
Eh ben, tant pis pour eux. Les vers gardent leur secret bien enfoui avec eux, en attendant que les chercheurs fassent toute la lumière sur ces ingénieurs de l'ombre. Pour approfondir vos connaissances à leur sujet, il n'y a qu'à ramper, je vous propose oui, d'utiliser ce mode de déplacement, jusqu'au libraire le plus proche et à vous jeter sur le numéro 876 de Science et Avenir. L'excellent dossier préparé par Loïc, ici présent, s'est creusé une chouette galerie entre les pages du magazine. Je profite du coup, Loïc, pour te remercier.
Merci Romain.
Et rappeler que tu es le spécialiste environnement de la rédaction de Science et Avenir. Alors, avant les sempiternels remerciements et appels du pied à vous abonner, restez connectés, n'arrêtez pas ce podcast. Je vous propose de participer à une expérience. L'unité mixte de recherche en écologie du sol à Montpellier mène un inventaire des vers de terre en France et ses équipes ont besoin d'un petit coup de main. Alors, avis à celles et ceux qui souhaiteraient bêcher pour une bonne cause, on vous mettra le lien en description pour vous y inscrire. Il y a un petit protocole à respecter afin d'envoyer les vers de terre que vous récupérez à l'unité de recherche, mais tout est expliqué. Alors, en bon petit ver de terre podcastique qui espère aérer les sciences et vous fertiliser vos connaissances, Sixième Science trace tranquillement sa route dans les galeries d'iTunes. Alors, si vous avez apprécié cet épisode, un coup de pouce de votre part nous aidera beaucoup à passer la seconde et à remonter tranquillement, là encore, à la surface des classements. Collez-nous des étoiles, commentez, faites ce que vous voulez, on appréciera tout. Mais alors, le plus important, c'est de vous abonner à notre podcast sur la plateforme de votre choix, aucun problème là-dessus, pour ne louper aucun de nos prochains épisodes. Sur ce, à dans deux semaines, et n'oubliez pas, on envoie de la science dans tous les sens.
Allez, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts. On a un bon public et les meilleurs supporters. On va gagner, ça c'est juré. Allez, qui c'est les plus forts, évidemment, c'est les verts.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.